Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 20. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous, en toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, pour l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Ces paroles de Paul mettent en contraste ce qu'il appelle ce qui est terrestre et d'autre part les choses d'en haut ou encore, suivant les traductions, les réalités d'en haut. Et pour chacune d'elles, il dresse une liste pour ce qui est terrestre, je paraphrase un peu, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qu'il qualifie d'idolâtrie. Et il y ajoute, dans un deuxième temps, une liste de comportements sociaux à bannir. La colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés, le mensonge. Et il oppose à toutes ces choses l'expression de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, la patience. Le tout d'un désir de se supporter les uns les autres et de se pardonner les offrandes à l'image du pardon que nous avons reçu du Christ. Il rappelle évidemment que l'amour viendra couvrir et lier tout cela. Il nous appelle à la paix du Christ, et à la reconnaissance, ainsi que nous l'a dit Laurence il y a peu de temps. Il termine en donnant les moyens par lesquels toutes les choses qu'il a qualifiées de choses d'en haut se concrétiseront et s'entretiendront. La présence et la constance de la parole de Dieu en nous, avec cette expression qu'elle habite en nous dans toute sa richesse. L'instruction et les avertissements mutuels par des psaumes, des hymnes, des cantiques, bref, toutes les formes de louanges, et le tout au nom du Seigneur Jésus, et encore une fois, en exprimant au Père notre reconnaissance. Et viennent ensuite des recommandations un peu plus ciblées, celles que, avant lesquelles nous nous sommes arrêtés, nous n'avons pas lu, mais qui suivent ce passage, sur les relations mari et femme, parents et enfants, maître et esclave, des situations particulières. Mais nous avons ce contraste entre les choses d'en haut, dont nous venons de parler, les réalités d'en haut, et celles qui sont sur la terre, ce qui est terrestre et autrement. Mais assez étonnamment, avant d'aborder ce contraste, Paul a traité d'une sorte de troisième catégorie, ce que j'appelle une troisième catégorie, ce qu'il appelle les principes élémentaires qui régissent le monde. Et à titre d'exemple, qui parle plus que tout, il en énumère quelques règles. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. J'ai l'impression d'être dans une famille avec des enfants ou à l'école, je ne sais pas. Hein. Et en fait, là, il parle de la pression culturelle qui, bien qu'elle diffère d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, s'exerce néanmoins, indiscutablement, surtout chrétien. Et les Colossiens n'y échappaient pas. Cette pression culturelle, elle était même double, puisque ils étaient tiraillés entre une tendance de leur culture avec le polythéisme qui les incitait à ranger Jésus aux côtés des autres dieux, l'égal d'autres dieux. Voilà. Et l'autre pression qu'ils subissaient en tant que nouveaux disciples de Jésus était la pression de la culturelle juive qui visait, eux, les nouveaux disciples de Jésus dans ce monde païen, qui visait à les contraindre à respecter la loi juive, la Torah. Et Paul tire la sonnette d'alarme, attention, ne pas confondre les règles de bienséance avec ce qu'il va appeler les choses d'en haut, la bonne éducation, les commandements humains, les règles que nous nous sommes fixées par culture ou par usage, là ne résident pas les choses d'en haut. S'il leur concède une certaine valeur disciplinaire, c'est sans doute utile, une certaine utilité à la vie en société, et l'Église est une de ces vies en société, il serait illusoire, nous dit-il, de croire que leur respect dénote de notre appartenance au royaume de Dieu. Paul le dit clairement, elles ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Elles peuvent même constituer une fausse sécurité. On n'entre pas dans le royaume de Dieu en respectant des codes. Et donc, si on reprend tout cela, nous avons en fait trois dimensions. Les choses d'en haut, les réalités d'en haut, ce qui est terrestre, les réalités terrestres, et qui sont relativement faciles à identifier. Et enfin, des choses qui présentent une certaine apparence de sagesse, mais qui s'avèrent en fin de compte plus culturelles que spirituelles, purement terrestre, sans doute plus difficile à identifier. Et le propos de Paul prend, au milieu de cela, une direction et un sens très clair, une direction unique, rechercher les choses d'en haut. Évidemment, pas celles qui sont ouvertement terrestres et donc opposées à celles d'en haut, mais pas non plus celles qui sont faussement célestes, et dont nous pourrions être tentés de nous satisfaire. Mais je voudrais ce matin revenir plus particulièrement sur les versets 1 à 4. Je vais donc les relire. Chapitre 3, versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si le verbe rechercher revient de manière relativement constante dans la plupart des traductions. On ne trouve pas de grandes variations à ce niveau-là. Celui qui est traduit au verset 2 par « attachez-vous » ici dans la version seconde semble poser beaucoup plus de difficultés au traducteur. Le mot grec, c'est « phronéo ». Attachez-vous aux réalités d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, lisons-nous dans certaines versions. Préoccupez-vous de ce qui est en haut. Pensez aux choses d'en haut. Et la version du semeur va même jusqu'à construire toute une expression pour traduire ce seul mot grec, phronéo, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Pour maîtriser une langue étrangère, il est couramment admis que le meilleur moyen est ce qu'on appelle l'immersion, c'est-à-dire de passer toute une partie de sa vie dans un pays où cette langue est parlée. Et plusieurs parmi nous vivent d'ailleurs dans ce contexte de l'immersion en ce moment même. Immergé dans ce contexte, on acquiert le réflexe de ne plus traduire tout ce qu'on entend, toutes les paroles qu'on entend, et on finit par penser dans la langue dans laquelle on est immergé. Paul nous invite à nous immerger en haut. Paul nous invite non plus à ne plus penser à la manière terrestre, mais à penser à la manière d'en haut. Pensez-le en haut. Comme on pense en français, certains pensent argent, d'autres pensent grandeur. Je me souviens d'un client qui me faisait ce reproche. Vous pensez trop petit, il me disait. Avec nous, il faut penser grand. D'autres pensent culture, science, connaissance. Les chrétiens sont appelés à penser choses d'en haut. Paul n'est ni le premier, ni le seul à établir un contraste entre les réalités terrestres et les réalités célestes. Et nous avons, par exemple, Jésus qui dit à Nicodème dans Jean 3, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Donc le contraste est bien là. Dans le même chapitre de Jean 3, au verset 31, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Et bien avant eux, Ésaïe, dans un passage souvent cité, en Ésaïe 55, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, déclare l'Éternel, et mes voix ne sont pas vos voix. L'Éternel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Et donc, si Paul n'est pas ni le premier ni le seul à évoquer ce contraste entre réalité terrestre et choses d'en haut, choses d'en bas, choses de la terre, il n'est pas non plus le seul à nous inviter à élever nos pensées, à penser choses d'en haut. Les paroles d'Ésaïe qui précèdent, celles que nous venons de lire, sont celles-ci, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, recherchez comme là. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. » Vous avez entendu ses pensées terrestres. « Jésus, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela, les choses terrestres, les biens terrestres, vous sera donné en plus. » C'est donc ce passage loin d'être une découverte pour nous. Alors, dans une situation immersive, comme celle que nous avons décrite, l'apprentissage passe prioritairement par les sens, principalement ce que nous voyons et ce que nous entendons. La lampe, l'œil est la lampe du corps, nous dit Jésus. Ce sur quoi nos regards se tournent et restent fixés déterminera très probablement le chemin que nous prendrons. Nous parlons, bien sûr, au figuré, mais tourner les yeux vers les choses d'en haut, viser les choses d'en haut, les avoir en point de mire. Et c'est d'ailleurs l'option que prend pour ce passage la traduction de la Tobe. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Et même chose pour l'écoute. Que nous dit le ciel? Quelles sont les paroles qui descendent du ciel? Avec la Bible, parole de Dieu, nous n'en manquons pas. Le mot qui est traduit par « en haut » est le mot grec « anneau ». Je ne sais pas si je prononce bien, puis je ne sais pas si on sait comment ça se prononçait à l'époque, de toute façon. Donc, « anneau ». Donc, dans l'un des sens, celui qui nous concerne est vers le haut. En montant, au-dessus, en haut. Et par exemple, aux noces de Cana, Jésus demande qu'on remplisse d'eau les jarres, anneau, c'est-à-dire jusqu'en haut. Et devant le tombeau de Lazare, Jésus s'adresse au Père en levant les yeux anneau, c'est-à-dire en haut. Et ce que demande Paul aux Colossiens et à nous, c'est d'élever nos pensées, que nos regards se tournent vers le ciel, vers les valeurs du ciel, vers les lois du ciel, que nos oreilles soient à l'écoute de ce qui se dit dans le ciel, des paroles qui viennent du ciel. Le ciel n'est pas autant hermétique à nos yeux et à nos oreilles que nous sommes tentés de le penser. Quelques échos nous parviennent, comme lorsque Jésus évoque la joie dans le ciel, quand un pécheur se repent, la parabole du fils prodigue, du retour du fils prodigue, lève le voile un petit peu sur l'ambiance qui règne dans le ciel avec cette fête qui bat son plein dans la maison du Père. Chaque fois que nous avons un culte de baptême, c'est la pensée de la fête qui bat dans le ciel me transporte. Et tout ça, rien que pour notre petite communauté locale, cette grande fête, rien que pour notre petite communauté locale, rien que pour quelques personnes qui s'engagent avec le Seigneur. Dans un autre registre, je pense à Job, que Dieu cite en exemple à Satan lui-même. On sait, d'après ce qui nous est décrit dans cette histoire, on sait ce qui réjouit le ciel. Mais on sait ce qui est l'attriste aussi. Et l'un comme l'autre font l'objet de notre passage. Mais afin que nous empruntions le bon chemin, Paul nous exhorte à ce que nos pensées et tout notre être soient tendus vers le ciel. Et pas seulement à titre individuel, parce que vous le constatez, notre texte revêt une dimension collective, une dimension communautaire. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres, chantez au Seigneur de tout votre cœur, que des choses qui se vivent collectivement. Et il y a donc ce mouvement du bas vers le haut, mouvement qui consiste à se tourner vers le ciel, à viser en haut. Un ciel dont nous sommes déjà citoyens, Paul exprime aux Philippiens, d'où cette expression au verset 3, Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Toute une part de notre vie qui ne peut pas être retenue par ce monde et échappe totalement à son contrôle. Alors, ce matin, Eric a dit que nos émotions, nos sentiments ne sont pas cachés à Dieu. Effectivement, elles ne lui sont pas cachées, mais elles peuvent l'être aux yeux de ce monde. Mais verset 4, cette partie de notre vie aujourd'hui cachée aux yeux du monde deviendra pleinement visible dans la gloire au retour de Jésus. Quand Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place, il ne s'agit pas d'une place libre que pourra prendre le dernier arrivé. Il s'agit d'une place réservée, une place nominative. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'anticipation de notre condition à venir, de notre citoyenneté à venir, de penser à, comment dire, d'anticiper notre condition à venir, est-ce que c'est la seule finalité de cet appel à nous tourner, à tourner nos yeux en haut, à rechercher les choses d'en haut et à nous en imprégner, comme si ça ne nous apportait quelque chose qu'à nous. Cette recherche des choses d'en haut, ce penser en haut, ne sert-il qu'à nous projeter en pensée et à nous y préparer? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement descendant, mouvement de retour, qui nous permet d'appréhender les choses terrestres avec un regard d'en haut? Notre vie terrestre, notre rôle en tant que disciple, notre mission communautaire ne gagne-t-il pas à se nourrir des choses d'en haut, de la perspective d'en haut, des valeurs d'en haut, des pensées d'en haut? Quant à moi, avant d'éménager dans une maison neuve, il y a à peine plus d'un an, et au début, on a vécu avec l'éclairage de base qu'il y avait dans cette maison. On n'avait pas pu tout installer, donc on a vissé des ampoules au plafond rapidement, directement au plafond. Et ça produisait une lumière très rasante sur le plafond, une lumière qui partait à l'horizontale et qui faisait ressortir les moindres défauts du plafond. On avait l'impression que le plafond était une suite de montagnes russes. Le moindre creux, et je ne parle même pas en millimètres, je parle en quelques dixièmes de millimètres, apparaissait comme une profonde dépression. Et puis quand nous avons fini par installer nos luminaires, c'est-à-dire quand la source de lumière est décollée du plafond, qu'elle est descendue de quelques dizaines de centimètres, alors là, tous ces défauts ont disparu comme par enchantement. La vue terrestre est une vue rasante. Elle accentue les disparités. Chacun voit les choses de son point de vue, n'est pas le même, bien sûr, que celui de son voisin. Les fossés se creusent entre les uns, tandis que des murs se dressent entre les autres. Et la hauteur que nous fait prendre une vue d'en haut dissipe les ombres, aplanit les obstacles et fait luire la grandeur du règne de Dieu. Considérer les choses depuis en haut, c'est-à-dire avec une culture d'en haut, des valeurs d'en haut, en quelque sorte avec, j'ose à peine le dire, le regard de Dieu, j'ose à peine le dire, parce qu'on ne peut pas s'en prévaloir, mais d'avoir le regard de Dieu, mais essayer quand même de se placer dans la perspective de Dieu, ça nous permet aussi de nous replacer dans la perspective de Dieu pour les hommes. Paul dit à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et s'il ne nous avait dévoilé que cela de sa volonté, déjà ce serait une feuille de route suffisante. Mais il nous en a dit beaucoup plus. Porter sur nous-mêmes et sur les autres le regard de Dieu, un regard lucide, mais rempli d'amour, exempt de favoritisme. Porter sur nos frères et sur l'Église le regard de Jésus, qui s'est donné pour elle, qu'il bâtit au quotidien, et sur laquelle il veille à chaque instant. Alors non pas pour que nous devenions les gardiens du temple, au risque de la soumettre à des règles de sagesse purement humaine, on en a parlé tout à l'heure, que Dieu nous en préserve, mais parce qu'il nous associe à son œuvre en pure grâce, pour que nos décisions et nos actions soient imprégnées de son regard, qu'elles prennent de la hauteur par rapport à la vue trop rasante que nous en avons ici-bas. Alors, bien sûr, vu d'ici, les chaque nouvelle marche à franchir est un nouveau défi. Et elle ne représente pas le même défi pour tous. Certaines marches sont plus dures pour les uns que pour les autres. Je voyais, j'étais à Noël avec, j'ai vu mes deux petits-fils de 2 ans et demi et 3 ans monter gaillardement les escaliers. Et je considérais la hauteur des marches par rapport à leur taille. Quel obstacle, hein. On voit bien que ce sont des adultes qui ont défini la hauteur des marches d'un escalier. J'ai fait un rapide calcul, ça équivaudrait pour un adulte à doubler la hauteur de chaque marche. Imaginez un escalier comme ça dont les marches seraient le double de ce qu'elles sont aujourd'hui, sans en diminuer le nombre. Hein. Pour autant, du jour où mes petits-enfants ont compris l'intérêt qu'ils avaient à grimper à l'étage en toute autonomie, ils n'y ont plus jamais renoncé. Oui, chaque marche est un nouveau défi. Mais notre escalier va au ciel. Alors ça monte, c'est normal. C'est le contraire qui serait inquiétant. De là où nous sommes, de cette terre, sur cette terre, contempler et sonder, interroger le ciel. Fort de notre citoyenneté terrestre, en percevoir les échos, en recevoir les instructions. Puis, dans un mouvement descendant, appréhender les questions terrestres avec la carte d'identité des citoyens du ciel. Les citoyens d'en haut avec un regard d'en haut. Bon, regard d'en haut, ça peut peut-être faire penser à regard hautain. Je n'ai pas dit regard hautain. Jésus, la lumière descendue du ciel, est humilié plus qu'aucun homme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que Jésus nous demande d'adresser au Père. Nous pouvons avoir une vision très passive et assez lointaine de cette prière. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Qui pouvons-nous ? Que ce soit maintenant ou plus tard, en quoi le maîtrisons-nous ? Et de fait, Dieu est le premier artisan de l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Mais en sommes-nous réduits à rester de simples observateurs ? Pouvons-nous être avec Dieu dans l'accomplissement de sa volonté sur la terre ? Si la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse, qu'est-ce que Paul nous souhaite ? Ne nous permet-elle pas d'importer les réalités d'en haut sur la terre. Bien sûr, ces questions, surtout en ce jour d'Assemblée générale, nous sont adressées à la fois individuellement, mais aussi collectivement, d'une part en tant qu'enfants de Dieu, et d'autre part en tant que peuple de Dieu. Nous aimons ce chant. Il dit, nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Je crois que ce matin, il y avait d'ailleurs un chant qui reprenait ce mot de peuple. Toutes ces choses, nous les trouvons dans notre passage de ce matin. Donc je vous laisse avec cette question, cette réflexion. Comment, individuellement et collectivement, allons-nous décider d'être avec Dieu dans l'accomplissement de sa volonté sur la terre ? Je vous laisse y réfléchir pour cette semaine.